le temps buissonnier. Le temps buissonnier partage aujourd'hui avec Mathieu Roy pour Days of Nothing et Olivier Letellier pour Maintenant que je sais, je ne peux plus me taire. Avec Carmela et Negrito, son grillon, nous nous sommes croisés ce week-end car si je suis allée en Haute-Ariège, eux, ils sont descendus à Paris, comme ils disent. Sitôt arrivé dans notre petit village, mon téléphone sonna et je reconnus immédiatement la voix aiguë de Negrito le grillon. « Que vous arrive-t-il? Vous ennuyez déjà de moi? Mais non, et nous n'avons pas le temps de rigoler. Tiens, je te passe Carmela car tu m'agaces déjà. » Excuse l'humeur de Negrito, mais ce qui nous arrive a de quoi nous mettre en colère, reprit plus calmement Carmela. Écoute bien, puis réponds clairement et précisément, le temps presse. Promis, juré. Quand nous sommes sortis du métro Château Rouge, nous étions un peu perdus et regardions un plan quand un monsieur de ton âge a proposé de nous aider. Ah, sympa, m'exclamai-je. Voyez bien que Paris n'est pas l'enfer d'égoïsme que vous pensez. Attends, et ne m'interromps pas, tu l'as promis. Mais c'est plus fort que toi, je vois. Écouter un enfant, un grillon, t'es vraiment difficile. Donc, pour remercier ce monsieur très sympathique, je lui ai fait une bise sur la joue. Et sur l'autre joue, Negrito est venu se poser délicatement. Et là, le monsieur s'est mis à pleurer. Tu nous connais? Nous lui avons demandé pourquoi ses larmes. Et voilà qu'il nous a confié avec un doux sourire, sans doute un sourire de pudeur. Pardonnez-moi, mais votre gentillesse, votre gaieté m'ont tout à coup bouleversée parce qu'à cette heure précise, mes petits-enfants, qui ont à peu près votre âge, ne pourront pas embrasser leur grand-mère qu'ils attendaient avec impatience depuis des mois. Mais pourquoi ? On lui demande avec Negrito. Eh bien, parce qu'elle doit être en ce moment dans un avion, pour Alger, expulsée par les autorités belges. Oui. Il me faut vous dire que ma mère, l'arrière-grand-mère de mes petits-enfants, donc, avait prévu de visiter tous ses enfants et de passer d'abord par Bruxelles pour voir sa fille, ma sœur, puis de venir à Paris pour nous voir, mes deux frères et moi, et nos enfants et nos petits-enfants. « Mais c'est idiot !» s'exclama Carmela. « Injuste, oui !» rajouta Negrito, indigné. « Oui, vous avez raison. » Et mes larmes sont aussi des larmes de colère face à la bêtise et à l'indifférence. Je suis allée à l'ambassade de Belgique hier, à Paris, pour leur dire que ma mère a 86 ans, que c'est certainement son dernier voyage en Europe, qu'elle a fait des économies et une longue route depuis son village pour rejoindre l'aéroport d'Alger. Mais ils ne m'ont même pas reçue au-delà de l'accueil. Voilà, elle doit être dans l'avion maintenant et mes petits-enfants ne la verront pas de sitôt. Voilà l'histoire, reprit Negrito, et nous t'appelons pour nous aider à faire publier un article dans tous les journaux en France et en Belgique, et aussi en parler à la radio et dans les télés. Mais là, on ne peut pas te dire au téléphone notre plan pour passer à la télé. Juste, on veut savoir si l'on peut rester une semaine de plus dans ton appartement et compter sur ton aide. Voilà, j'avoue avoir hésité avant de répondre oui à la deuxième partie de la demande de mes amis. Je crains le pire, mais bon, j'ai dit oui finalement, et nous verrons bien la semaine prochaine quel est leur plan. Mathieu Roy, Olivier Letellier, je suis ravie de recevoir ce qui fait la jeunesse du théâtre. Vous êtes deux metteurs en scène, comédiens aussi, mais plutôt maintenant metteurs en scène. Et tous les deux, vous proposez des spectacles pour adolescents. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois. Juste avant de parler de vos pièces respectives, peut-être Olivier Letellier d'abord. Qu'est-ce qui vous donne envie d'écrire, de mettre en scène pour en direction d'un public adolescent? Bon, je rappelle que vous aviez fait Oh Boy, par exemple, oui, qui a eu le Molière, quand même.
Qu'est-ce qui me donne envie? Moi, j'ai toujours travaillé avec eux, pour eux, et je trouve que c'est un public auquel on s'adresse peu et qui a pourtant envie de recevoir des tas de choses et qui est curieux et qui est intéressé et intéressant. Donc, du coup, c'est bien d'aujourd'hui de leur raconter des histoires et de leur raconter le monde, mais en s'adressant plus particulièrement à eux, avec leur rythme, avec c'est toujours un âge qui m'a touché, parce que c'est l'âge où on est en rupture, on veut pas trop être avec les adultes, où on veut pas trop ressembler, on a besoin d'exister, et puis en même temps on a des grandes questions, et souvent les adultes ne parlent pas de ces questions-là, donc du coup de pouvoir aborder des tas de choses comme ça, ça me touche aussi. Peut-être que je suis encore un enfant et c'est tout, parce que c'est des questions qui me concernent tout le temps.
En tout cas, elles concernent tout le monde, parce que quand on voit vos pièces, bien sûr que ça s'adresse et ça parle des adolescents, et souvent les adolescents sont au cœur, comme dans Oh Boy, mais aussi comme avec vous, Mathieu Roy, dans Days of Nothing, ils sont au cœur de la pièce, pas seuls bien sûr, mais ça touche tout le monde. En même temps, c'est difficile de faire venir les adolescents au théâtre. Là, souvent, c'est un public qu'on appelle captif parce qu'ils viennent beaucoup avec les lycées. Mais est-ce qu'ils viennent tout seuls à ces pièces ?
Ça arrive. Et je crois que, en général, quand on réussit à les intéresser justement sur ces temps scolaires, on a des personnes, des adolescents qui reviennent d'eux-mêmes, parce que l'expérience théâtrale peut être fondatrice, très forte, et qu'on peut se retrouver dans ce qu'on voit sur le plateau. Et je crois qu'avec Olivier, c'est ce qui nous intéresse énormément, c'est ce qu'on partage. Et moi, si je travaille aussi pour et les adolescents, c'est parce que j'ai des souvenirs de spectateurs où je me suis profondément ennuyé quand j'étais adolescent. Et justement, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que les adolescents se reconnaissent et soient intéressés par les formes, notamment, qu'on peut leur proposer en les prenant déjà pour des adultes.
Alors, puisque vous avez la parole, Mathieu Roy, parlons de Days of Nothing, qui est un texte d'un auteur qui est aussi qui écrit beaucoup, Fabrice Melchior, pour la jeunesse, et qui vous a réservé, offert ce texte, qui met en scène deux adolescents dans un lycée ou collège ?
Collège.
Ouais. Et un auteur, Rémi Brossard, qui est un auteur en résidence, comme on dit. On a un décor qui est une sorte de bocal, de ring, mais avec le fond de la scène qui est une vitre, et qui ressemble à une vitre, et où l'on voit passer des gens, mais pour de vrai. Donc une vidéo, comme c'était à la mode à une époque, à la télé, au journal de 20h, on voyait les gens dans la rue défiler derrière. Mais j'avoue que là, au théâtre, tout à coup, ça donne un effet de réel assez saisissant.
Oui, c'est ce qui nous a intéressé, c'était de mettre en perspective cette pièce qui est en prise avec le réel. Rémi Brossard est donc en résidence dans un collège, et comme on peut faire cette expérience en tant qu'artiste quand on travaille en milieu scolaire, il va rencontrer des adolescents et il va être évidemment perturbé dans son projet initial, qui est un projet d'écriture, parce que justement il va rencontrer deux spécimens qui vont le dérouter complètement, parce que il ne s'attend pas à ce que ces adolescents soient autant armés, je dirais, intellectuellement, et il les prend peut-être pour des collégiens ou des peut-être des moins que rien, et en fait Maximilien notamment va profondément le toucher, parce que c'est un jeune homme qui a de la répartie et qui a de la suite dans les idées.
Oui, et qui est provocateur, mais tout le début de la pièce, c'est lui qui mène la danse. Hein.
Complètement.
Pardon ? Qu'est-ce que tu veux ?
Si tu veux, je veux rien. T'es là, posé sur ton maquillage comme une merde. Je veux savoir pourquoi tu pionces là comme une merde, tout seul dans la salle de classe.
Au revoir. Je dois bosser là, dégage.
Pourquoi tu parles comme ça ?
Pourquoi tu me tutoies ?
Je me tutoie.
Il est quelle heure ?
11h. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais ?
Je travaille.
Tu pionces comme une merde sur ton ordi. Tu trimes mon œil.
Tout le monde, quand on pionce, on ne le fait pas forcément comme une merde. Deux yeux, moi, quand je pionce, je travaille.
C'est ça. Et ma sœur, c'est la Joconde.
Je sais même pas qui c'est, la Joconde.
Ah ouais. La Joconde, c'est un tableau pour une nage. Toi, tu sais pas qui c'est, la Joconde. Toi, la Joconde, tu crois que c'est une station balnéaire, des guets dans ton genre pour te faire poser les couilles, pareil que la boule.
Tu peux répéter ce que tu viens de dire ?
Non, pour mes maths, espèce de poireau. Elle va te faire poser à la boule.
La boule. C'est quoi la boule ?
Je ne sais même pas ce que c'est la boule.
J'ai plusieurs hypothèses.
C'est une station balnéaire, la boule.
La boule ?
J'y allais quand j'étais petit, la boule est sous plaque.
La boule,
de rien à foutre. C'est le même glace de merde avec des vieux qui achètent des glaces, ils ne se rendent même pas compte qu'ils meurent. Pourquoi tu rigoles ? Je fais rire. Je parie que t'as un séjour de merde, qu'il faut la voir pendant deux semaines, une dépression la troisième.
Ils sont tous comme toi, tes camarades.
Camarades toi-même.
Tu commences à me fatiguer, Kevin.
Kevin, je m'appelle pas Kevin, pourquoi tu m'appelles Kevin?
Kevin, Brandon ou Dylan, je m'en tape. Allez, file en plein.
Sale cul.
Pardon.
Sale cul.
Ok, ma claque, je vais voir le proviseur.
Donc on voit cette première confrontation entre l'auteur et Maximilien qui a des réparties terribles, qui très vite va d'abord lui montrer qu'il a aussi des lettres et qu'il connaît Victor Hugo et qu'il connaît Pagnol. D'ailleurs il s'amuse, il l'appelle Pagnol, au revoir Pagnol. Et à un moment donné il lui dit mais en fait tu es le Cosette de l'écriture. Et là c'est très cruel parce que on voit le doute, puisque en dehors des moments de dialogue, on a aussi une voix indirecte qui est les pensées de Rémy Brossard. Et il le bouleverse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes sont malmenés par la société. Les enfants, les adolescents, certes, mais les artistes aussi. On se rend compte que ces résidences d'écriture, c'est pas facile.
C'est pas évident s'il n'y a pas d'accompagnement, en fait. Et nous sommes nous-mêmes en résidence en Seine-Saint-Denis, et ça se passe extrêmement bien, puisque nous sommes accompagnés à la fois par le Conseil Général, par les théâtres et par les établissements. Donc s'il n'y a pas de lien entre ces trois maillons, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que démontre la pièce de Fabrice Melchior, puisque l'auteur est laissé vraiment tout seul dans cette salle de classe, qu'il n'a de lien ni avec le principal, ni avec les autres professeurs, et que finalement, les élèves ne savent même pas qui il est. Donc effectivement, l'artiste est renvoyé à sa condition d'écrivain, et donc il vient finalement uniquement pour pointer, entre guillemets. Et c'est heureusement, finalement, les collégiens qui vont découvrir cette personne qui est là et qui finalement va leur apporter autant. Et c'est là où c'est intéressant dans cette pièce, c'est que Fabrice Melchior n'est pas non plus tendre avec les artistes.
Non, non, on n'édulcore pas.
Non, au contraire, on est, je crois, de plein pied dans la réalité. Et cette réalité, elle est crue, elle est parfois violente, mais en même temps, elle est tendre. Et c'est aussi le message que nous fait passer Fabrice Melchior, c'est que c'est finalement une pièce aussi pleine de poésie, mais avec une langue extrêmement acérée, avec des réparties qui fusent, et c'est véritablement un combat qui s'opère entre cet adulte
une
et ses adolescents. Oui, ouais. Une vraie joute.
Ouais. Vous dites que vous êtes en résidence vous-même. Vous avez montré des étapes du travail à des ados.
Oui, on a d'ailleurs les adolescents, les collégiens que nous voyons sur la scène ont été filmés à Châtellerault. Et nous avons travaillé avec des collèges, avec des lycées en Poitou-Charentes où la compagnie est implantée. Et le texte fait mouche et résonne extrêmement de manière très forte avec les collégiens et avec les lycéens, puisqu'ils, à la fois, ils se reconnaissent et en même temps, ils disent « mais c'est pas possible, on peut pas agir comme ça, on peut pas aller jusque-là ». Et c'est bien la puissance aussi du théâtre de montrer des situations qui vont trop loin, des situations qui dérapent, pour nous aider justement à ne pas aller dans ces recoins-là.
Mais il y a vraiment la jubilation du théâtre, du jeu, et la difficulté aussi, sans doute, notamment pour l'acteur qui joue Maximilien, on va dire son nom.
Alors, en fait, c'est une jeune femme.
Ah, c'est une jeune femme, oui.
C'est un des partis pris de la pièce, c'est de faire jouer Hélène Chevalier, qui joue les deux adolescents et qui réussit un travail de travestissement physique et vocal qui est assez remarquable. Et Philippe Canales, qui est un camarade de longue date de la compagnie, qu'on avait vu aussi dans Martyr et dans La Conférence, qui joue le rôle de l'auteur en résidence.
Voilà, alors il faut aller au théâtre Paris-Villette. Donc ça a commencé le 3, mais c'est jusqu'au 13 février. Et puis j'imagine que vous allez partir en tournée. Vous allez jouer dans des lycées. Ben, c'est difficile de transporter ce décor-là.
Ben, en fait, on avait hésité au départ à aller créer la pièce in situ. Et finalement, on trouvait plus intéressant de recréer une forme de réalité qu'on vient poser sur le plateau du théâtre qui fait penser ou qui rappelle le collège ou le lycée. Et donc, les collégiens, les lycéens et les adultes viennent avec plaisir dans la salle du théâtre. Et quand ils retournent dans leur établissement, je pense qu'ils le regardent d'une autre manière. Oui.
France Culture, le temps buissonnier, Aline Paillet.
Olivier Letellier, vous êtes vous aussi artiste associé, mais pas dans un collège, pas dans un lycée. Au théâtre de Chaillot, c'est quand même un peu plus confortable.
Oui, c'est sûr. Mais on a été aussi en résidence dans des collèges, dans des établissements, et c'est très très nourrissant. Et là, notamment dans les spectacles qu'on a créés, on a démarré par des résidences dans des collèges en Bretagne, et puis... Maintenant que je sais, on l'a créé entièrement en résidence dans un lycée en région parisienne, puisque l'idée c'était de s'adresser aux lycéens. Et donc, ce qui m'intéresse, et je ne suis pas le seul, mais on est plusieurs, c'est aussi de créer pour l'enfance et la jeunesse, mais aussi par l'enfance et la jeunesse, de les associer au processus de création, de les questionner sur les thématiques qui les intéressent, sur la forme, où nous adultes, des fois on se dit, on a un regard d'adulte sur l'enfance, sur l'adolescence qu'on était, mais c'était il y a déjà un petit moment. Et aujourd'hui, parce que la société bouge et va très très vite, que l'image est là, qu'il y a d'autres thèmes qui les préoccupent, c'est intéressant de les questionner sur justement ces choses-là et comment est-ce qu'ils les perçoivent. Parce que ce qui est intéressant, c'est de les toucher avec les histoires qu'on a envie de raconter.
Alors justement, le projet, c'est « Maintenant que je sais, je ne peux plus me taire » et ça donne trois pièces, « Maintenant ».
Maintenant que je sais,
je ne veux plus et
me taire.
J'ai assisté à la répétition, à un bout de répétition de Me taire, donc on va plus parler de celle-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les trois, et donc dans le projet total, c'est des femmes qui sont au cœur de ce que vous voulez raconter, de l'engagement, de la résistance, de la lucidité, énormément de thèmes. Est-ce que justement les adolescents que vous avez vus dans la résidence et qui ont assisté au début de tout ce travail sont touchés à la fois par la problématique des femmes, parce que dans Me taire, là vraiment on est là avec Paloma, une jeune fille des favelas qui a une sœur Cristal, mais qui elle, Paloma, va vouloir tellement sortir de la favela, comme si elle avait été programmée depuis la naissance par sa mère pour devenir une reine de beauté mannequin, et elle va devenir mannequin. Et elle va revenir au Brésil pour l'enterrement d'une grande bourgeoise qui s'est intéressée à cette famille-là, puisque la mère y faisait le ménage. Comment les jeunes gens ont perçu à la fois la problématique des filles, parce que là, il s'agit bien des filles, avec leur corps, avec la dureté sur le corps, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, ce qu'il faut transformer. Sur les favelas, c'est quand même loin, le Brésil. On l'entend plutôt pour le foot et Rio.
Oui, justement, c'est cette image d'Épinal où le Brésil... Et ça, on l'a vu sur les trois formes. À chaque fois, c'est effectivement le carnaval, le foot, les belles plages... Les favelas, ils en ont entendu parler, mais ils connaissent pas trop. Mais quand on commence à parler un petit peu plus précisément, c'est dur pour les filles de pouvoir prendre la parole, d'oser prendre la parole dans une classe, devant les garçons qui souvent... Mais de plus en plus quand même, on a vu qu'elles le font, elles prennent la parole. Par contre, de parler de la féminité, de ce que c'est, de l'image, du paraître, tout ça, c'est pas simple de mettre des mots dessus. Mais quand on commence à travailler avec eux, à questionner, on peut petits groupes à aller chercher, à les interroger. Quand ils viennent voir des défilages, des représentations ou des temps de répétition, ils parlent assez peu quand ils restent en nombre. Mmh. Ils restent après et puis ils continuent et ils restent là très longtemps. Ou alors on les croise, c'est l'avantage aussi d'être en résidence dans les établissements. On les croise à la cantine, on les croise dans les couloirs ou le matin. Et là, ils viennent nous voir et puis nous dire des petites choses qui les ont touchés, qui les ont... C'est très difficile, je me souviens, dans le lycée, de savoir ce qui les a touchés. Il y avait un jeune homme qui était là pendant une représentation et il avait, pendant toute la représentation, la tête baissée, enfoncée dans sa capuche, où on avait l'impression que vraiment, il était en souffrance. Et puis en fait... On l'a croisé le lendemain et il était là dans le couloir en train de dire à un autre camarade « Si, il faut aller voir le spectacle, c'est génial, j'y suis allé hier, c'est moi qui jouais Pedro. » Parce que dans le spectacle, ils ont l'emplacement d'un personnage. Et lui, il avait joué le personnage, alors qu'il joue pas, il avait juste été identifié comme tel. Et donc nous, adultes, on s'était dit qu'il avait été en souffrance. Et en fait, pas du tout. Il était très très content de ce qu'il avait vécu et même, il en parlait. Donc, on ne sait pas forcément ce que ça leur fait, mais ça les marque.
Alors, j'aimerais lire, on va écouter un extrait de la répétition, puisque je suis venue vous voir, et c'est d'ailleurs très, très généreux d'ouvrir une répétition, à la fois pour la comédienne, qui est en travail, et qui ne peut pas donner, évidemment, enfin, qui montre justement ce travail, et la fragilité de ces métiers, et vous la dirigez. Mais avant, je voudrais lire un extrait du texte, parce qu'il est vraiment magnifique. Et du côté de Paloma, donc cette jeune fille, je passais des heures à me coiffer en regardant le ciel par la minuscule fenêtre de notre minuscule assemblage de bois qui nous servait de minuscule maison. J'ai compris très tôt que j'étais née pauvre et que le monde est fait de murs. Dans le quartier où j'ai grandi, il y a un mur qui sépare deux mondes. Le côté nord du mur, nous l'appelions le monde des bulles de savon qui font la peau douce, des bulles de champagne qui scintillent au soleil, des bulles chaudes des piscines que nous imaginons dans nos rêves les plus fous. Le côté sud du mur, là où nous habitions, était la favela, un endroit fait de briques et de brocs, de cartons et de tôles ondulées. Il y a toujours un côté du mur qui pourrait, mais ne veut pas voir de l'autre côté, et un côté qui aimerait, mais ne pourra jamais passer du côté opposé. Le côté nord ne peut pas voir le côté sud aimerait voir le côté nord, mais ne le peut pas. Je voulais traverser ce mur, et je comptais sur mes cheveux pour y arriver. Là, c'est le texte est dense, et je pense que le travail est très difficile de faire vivre ça à des âges différents, à des personnages différents. C'est un texte très poétique, très écrit.
Oui, ben c'est Sylvain Levet, qui est un auteur de théâtre qui s'adresse pas que, mais beaucoup à la jeunesse. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une écriture de plateau. Donc du coup, ça a été des improvisations. Sylvain s'est nourri de ça, et puis il a réécrit, et puis il a retransformé. Très généreusement, il nous donne des morceaux, et puis on coupe, et puis on réadapte, et puis il est là beaucoup pendant les répétitions. Donc du coup, il peut donner des indications sur, puis réécrire des fois quand il faut. Enfin, donc c'est un vrai bonheur de travailler comme ça, et ça a été comme ça sur les trois créas. Donc alors, je suis metteur en scène heureux.
Heureux. Je l'ai vu pendant la répétition, que nous allons en écouter un extrait. Et c'est au moment où Angelina, hein, c'est ça, la patronne de la mère de Paloma, donc c'est une grande bourgeoise, qui va à un moment donné dire stop, s'opposer à son mari qui veut construire un terrain de football et pour cela détruire et déplacer des gens de la favela. Et elle dit non, c'est pas possible.
À quoi tu joues, Angélie? À quoi tu joues, Angelina? Je ne joue plus.
Après.
Grève des bisous! Oh, Cristal et moi, nous avons beaucoup ri en regardant notre mère imiter Claudio Ramirez. Bisous, bisous, un petit bisou, juste un petit bisou, un bisou. Plus un seul bisou jusqu'à l'annulation du projet du stade. C'était le stade ou la bisou. Ramirez devait faire un choix avec 4 R.
C'est beaucoup mieux que ça. Ouais. C'est beaucoup plus simple, ouais. Beaucoup mieux. Et du coup, on a ce truc de, on a vu la réalité qui est très très tendue. Et la mère qui vient, qui fait « Grève des bisous !» Elle nous raconte. Elle raconte aux enfants autrement la réalité. Mmh. Tu vois, elle essaie de cacher cette chose-là. Et donc, elle invente un truc, la grève des bisous, pour quand même raconter ce qui se passe là-bas. Mais du coup, c'est là pour nous, c'est intéressant parce qu'on a ces deux points de vue qui viennent et qui se télescopent.
Mmh. Je refais...
Donc voilà un extrait de la répétition, et c'est un moment terrible où est terriblement difficile à jouer puisque cette comédienne dont j'ai oublié la tout
Olivia Dalric,
voilà, va interprète tous les personnages comme dans un conte, en fait.
Oui, elle est seule en
Ramirez,
scène.
Ramirez, Angelina et la mère qui raconte l'histoire, en fait. Donc on est dans un abîme là un peu compliqué, une mise en abîme un peu compliquée.
Mais moi, c'est ce qui m'intéresse toujours. que voilà, il y a un personnage qui est là et qui raconte et qui rapporte les voix, les émotions de d'autres personnages, sans les incarner véritablement, en étant juste de donner la sensation, l'émotion, l'intention d'un personnage et de raconter une histoire. Donc il n'y a pas besoin d'être complètement le personnage, puisque ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur se fasse ses propres images. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on voit Ramirez qui lève la main et qui va aller jusqu'à mettre une claque à sa femme et qu'après Angelina va dire « Non, je ne veux plus. Maintenant, tu vas m'écouter. » Donc, qui est cette intention, cette intensité, et où le spectateur n'a pas le visage d'Angelina. Il y a juste cette comédienne qui est là et c'est la seule image qu'on ait. Mais elle est de dos, en silhouette, on ne la voit pas. Parce que le spectateur, ce qui m'intéresse, c'est que il se fasse ses propres images, il se dise « c'est peut-être quelqu'un que je connais, c'est peut-être une femme, un homme que j'ai vu qui a été dans cette situation, ou en tout cas que moi j'imagine et où je me dis « tiens, c'est lui ». Et là, ça devient notre histoire à nous en tant que spectateurs, et c'est plus ça qui m'intéresse plutôt que d'être dans l'illustration. C'est pour ça que je fais pas du cinéma.
Et d'ailleurs, Olivier Le Tellier, maintenant que je sais, je ne peux plus me taire, qui est le titre général des trois pièces qui vont se jouer. Alors je le dis entre le 6 et le 17 février. Et ce titre général, maintenant que je sais, je ne peux plus me taire. J'avais l'impression que c'était presque une profession de foi d'artiste, vous comme Mathieu Roy, et qu'on arrivait à un moment dans cette société si grave que ça rappelle Pasolini, Pilade, tout s'effondre autour de toi et tu n'as rien à dire. Enfin, on en est presque là.
Mais je crois qu'en tant qu'artiste, on ne peut plus ne rien dire, avoir des discours creux. On a la chance de pouvoir s'exprimer, et puis on sait le faire, on peut s'exprimer, on a la chance d'avoir des gens qui viennent nous voir, de pouvoir partager la parole. Donc c'est notre rôle à nous, justement, de dire un petit peu ce qui se passe, et puis de donner de l'espoir aussi, parce que c'est, on va pas être là juste à critiquer et à dire, mais de donner de l'espoir. Et du coup, c'est d'autant plus important de s'adresser aux ados, aux enfants, et de leur dire que de toute façon, une histoire, elle peut être, comme dans les contes, très dure. Mais enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse toujours. Au bout, il y a de la lumière.
Pour vous, Mathieu Roy, on ne peut plus se taire aujourd'hui ?
Ah non, 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 au contraire, il faut. Et c'est pour ça que je cherche à faire entendre la voix des auteurs contemporains, parce que ce sont ces personnes qui écrivent aujourd'hui qui nous font prendre conscience du monde dans lequel nous sommes. Et nous avons une grande responsabilité quand on s'adresse notamment à des adolescents, effectivement, de leur, non pas de leur tendre un miroir douloureux, mais de leur donner des armes pour pouvoir être dans le monde libre et debout et heureux.
C'est très important. Rêve, le merveilleux, c'est plus possible ? On peut plus aller de ce côté-là ?
Ah si, ah bah complètement. Si. Mais de sublimer, et c'est pour ça que je dis, c'est un moment, c'est de mettre, et là c'est notre rôle d'artiste, de mettre de la poésie aussi là-dedans. Mmh. Et les auteurs le font, et nous on le fait dans la mise en scène.
Ils le font avec une langue qui est différente de celle qui est parlée. Et puis, il y a souvent cette question au théâtre, pourquoi est-ce qu'au théâtre, on ne devrait pas montrer des choses qui sont comme dans la réalité ? Le cinéma le fait de manière extrêmement fine, et au théâtre, il faudrait rester dans une forme de légèreté. Bien non, je crois que justement, si les adolescents veulent continuer à venir au théâtre, c'est parce qu'ils ont envie qu'on leur parle de leur monde, et ils ont envie aussi de prendre la parole.
Merci à tous les deux d'être venus. Donc je renvoie pour vous deux, sur les sites respectifs du théâtre Paris-Villette, pour Mathieu Roy, Days Nothing, et pour Maintenant que je sais, je ne peux plus me taire, sur le site de Chaillot, ou sur notre site, où vous pouvez bien sûr trouver toutes les informations, réécouter l'émission, la télécharger, voir les photos, mon Dieu que c'est merveilleux. Le temps buissonnier, c'est fini pour aujourd'hui. Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier vous remercie, et à la technique, Jean-Guilain Meige nous a, c'était le seul homme de l'équipe aujourd'hui. Le temps buissonnier a fini trop vite encore une fois, il est bientôt 7h et ça va être l'heure du premier journal de l'information. À la semaine prochaine.